Moi, ça m'est déjà arrivé, remarque.
Oui, ouais, moi aussi, plusieurs fois même. Parle donc un peu, Marie-Hélène, que j'ajuste ton potentiomètre.
Mon potentiomètre, et voilà, je pense que tu m'entends bien. Ben, oui, attends un petit peu. Ah, comme ça, on est à peu près égal.
Oui,
ouais, c'est bon.
Super. OK, merveilleux. Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, votre radio communautaire francophone préférée, la présence francophone ici dans la grande région de Victoria. On continue cette édition du Débrief, la dernière de cette série rétrospective 2017, et je retrouve avec joie ma fidèle collaboratrice, Marie-Hélène Bourret.
Bonjour Alexis.
Bonjour Marie-Hélène. Alors, il y a ces sujets zombies.
Ouais.
qui n'en finissent plus de mourir. On croit qu'ils sont disparus, ils reviennent.
Ouais. Ils viennent nous hanter, vraiment.
Ils reviennent nous hanter. C'était le cas du site C.
Oui.
On en a parlé cette semaine. Et c'est également le cas du projet d'expansion, de triplement de capacité du pipeline Trans Mountain, l'oléoduc Trans Mountain, qui parcourt la distance entre Edmonton en Alberta et le port de Burnaby en région vancouveroise.
Mieux connu sous le nom de Kinder Morgan.
Kinder Morgan Trans Mountain, exactement. Ouais. Alors, il est revenu dans l'actualité, ce zombie, car on a appris il y a une dizaine de jours, c'était curieusement à peu près en même temps que l'annonce concernant le site C.
Oui.
Et donc, tous ceux qui s'intéressent à l'environnement ont eu comme une surcharge
d'adrénaline,
d'information, ouais. d'indignation peut-être. Bref, c'était il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, Burnaby qui a essuyé un échec, si vous voulez, l'Office national de l'énergie a reconnu à Kinder Morgan, la pétrolière américaine qui veut tripler son ouais. pipeline, le droit de ne pas tenir compte des règlements municipaux de Burnaby, qui est le point d'arrivée de l'oléoduc Trans Mountain.
On sait que Burnaby, alors c'est pas seulement la ville même avec le maire et les conseillers, ce sont aussi les habitants, ce sont les services de pompiers, les services d'urgence qui sont contre ce fait-là, que
écoute,
ça arrive
Marie-Hélène,
chez
Marie-Hélène, toutes les villes de Colombie-Britannique oui. sont contre ce oui. projet-là, à l'exception de quelques-unes dans l'est de la province. Plus on s'approche de l'Alberta,
oui.
et on en retrouve quelques-uns. Le oui. maire de Vancouver, Gregor Robertson, oui. est opposé farouchement à ce projet.
Mm-hmm.
Notre mairesse ici oui. à Victoria, Lisa Helps, est opposée farouchement à ce projet.
Oui.
Et Burnaby, c'est la municipalité la plus mobilisée, la plus...
La plus en danger aussi.
La plus hostile,
oui.
justement parce qu'elle est la plus en danger. Donc,
oui.
il y a eu des manifestations. Il y a eu un petit peu de désobéissance civile et ça se poursuit. Il y en avait eu en 2014 lorsque on parlait de faire passer le pipeline sous le Burnaby Mountain.
Ouais.
La GRC avait procédé à des arrestations de citoyens pacifiques. Bref, le feuilleton se poursuit.
Ouais.
Et là, notre Office national de l'énergie, le NEB, comme on l'appelle
ouais.
en anglais, qui donne la permission à Kinder Morgan de passer outre la
ouais.
réglementation de voter démocratiquement.
Mais en fait, en plus, ce que ça fait, c'est que ça ouvre la porte à Kinder Morgan pour passer outre les conditions qui avaient été mises de l'avant par les gouvernements fédéral et provincial pour pouvoir. Donc, quand on commence à déroger de la loi, parce que c'est une loi, je veux dire, il y a un vote, non, tu passes pas ici.
Il y a un effet domino.
Mais il y a un effet domino qui est très dangereux et ça arrive au moment où le Canada doit négocier avec les États-Unis pour le libre-échange. On sait que Kinder Morgan est une compagnie américaine. Est-ce que ça joue dans la balance?
Peut-être. On sait que ce triplement de capacité de livraison de pipeline sur Burnaby est un souhait du gouvernement chinois
ouais.
Qui a posé cette condition en vue de la négociation de nouveaux traités de libre-échange Canada-Chine.
Ouais.
Et donc, le gouvernement de Justin Trudeau s'applique à rencontrer cette condition posée par les Chinois.
Ouais.
Et donc, ils font à progresser ce projet contre vent et marée.
Ouais.
On sait que la population est opposée généralement à ce projet
mais,
de
mais il n'y a pas seulement, y a pas seulement la population en général, là, le monsieur et madame tout le monde dans la rue. Il y a aussi tous ces scientifiques qui ont déposé des rapports encore et encore. Et moi, ça me surprend, puis ça me surprend pas, en fait. Le gouvernement NPD provincial, donc, ici en Colombie-Britannique.
Nouvellement élu.
Le gouvernement libéral de Justin Trudeau au fédéral ont été élus sous des conditions de protection de l'environnement pour faire un peu contrebalancer aux administrations précédentes, libérales donc au provincial et conservateurs au fédéral, qui plus ou moins ne croyaient pas à la science. Le disaient souvent ouvertement même que c'était des manigances, on voulait, c'était des communistes, c'était peu importe c'était qui là qui causait le problème. Mais là, ces gens-là,
les tree huggers,
les tree huggers, les snowflakes. Alors, ces gens-là qui, ces politiciens donc qui auparavant nous disaient élisez-nous, on va faire une bonne job, on va mettre dehors ces gens qui ne croient pas à la science, qui ne respectent pas l'environnement. Les gens les élisent, pas moi, mais les gens les élisent et on se retrouve face au même problème.
Oui. Alors, on sait que Trudeau, élu en novembre 2015, a brisé ses promesses dans le dossier Kinder Morgan, ça c'est un fait incontestable. Maintenant, est-ce que le gouvernement de John Horgan, appuyé de façon cruciale par les trois députés du Parti vert et son chef Andrew Weaver, est-ce que ce gouvernement de John Horgan va lui aussi rompre les promesses, briser les promesses qui ont été faites durant la campagne? On voit que la promesse sur le site C a été brisée.
Ouais.
Maintenant, est-ce que ce sera le cas également dans le cas du Kinder
Morgan?
Il n'y
a rien à perdre parce que, dans le fond, si les Verts disent claquent la porte puis disent nous autres, il n'y a plus d'alliance, il y a les libéraux qui continuent à vouloir Kinder Morgan, qui vont l'appuyer. Donc, en chambre, s'il y a des choses à se décider, il est du bon côté, Horgan, à ce moment-là.
Donc, l'effet levier du Parti vert est très important. Kingmaker, autrement dit, c'est eux qui déterminent la balance du pouvoir.
Ouais.
C'est ce qu'on va voir.
Ouais.
J'aimerais qu'on remonte aux sources.
Oui.
Et je pense que la comparaison, l'analogie avec une source est vraiment pas bonne parce que c'est une source de pétrole sale.
Ouais.
En plus que c'est du heavy oil, comme on l'appelle,
du bitumen
qui coule au fond de l'eau et qu'on ne peut plus récupérer.
Et qui est mélangé à un produit pour justement le rendre plus fluide.
Oui.
Et ce produit-là, il va être ramassable sur le dessus de l'océan, mais le reste va dans le fond, puis crée des espèces de blobs.
Oui, c'est ce que nous avait très bien expliqué
François Brassard,
invité de l'émission à quelques reprises, représentant de Dogwood Initiative dans Esquimalt.
Juste rapidement, au point de vue politique, Dogwood, je reçois régulièrement leur lettre de nouvelles, disait que pour nous, c'est pas perdu pour les citoyens, là. Parce qu'il y a toujours ici, en Colombie-Britannique, la possibilité de faire une initiative citoyenne. C'est-à-dire, s'il y a 30% de tous les électeurs qui veulent un référendum sur une question particulière, c'est la loi en Colombie-Britannique. Le gouvernement est obligé d'aller en référendum, en question référendaire, et est obligé d'obéir à ce que le peuple a décidé. Donc, même si le fédéral...
Ça déclenche.
Oui, même si le fédéral pousse, même si Horgan vire son capot de bord, il y a encore une possibilité pour les citoyens de la Colombie-Britannique de se faire entendre et de virer complètement. Et le fédéral ne peut rien faire. C'est le peuple qui parle.
Bon, alors, c'est ça. On remontera aux sources du pipeline un petit peu plus tard.
Ouais.
Je vais juste poursuivre dans cette veine-là parce que c'est intéressant. La Constitution permet à Ottawa de passer outre les gouvernements qui sont sous le palier fédéral.
Ouais.
Hein? Donc, c'est possible de le faire. Maintenant, est-ce que l'acceptabilité sociale est au rendez-vous, est à zéro à peu près lorsque le gouvernement va à l'encontre d'une majorité dans l'opinion publique qui est claire et exprimée de façon répétée? Ça va être une lutte là, politique, sur le terrain politique.
Ouais.
Et dans la même constitution canadienne, il y a aussi ces dispositions concernant les Premières Nations. Oui. Ça, ces dispositions-là sont très importantes aussi. Oui. Et il va y avoir un choc entre les différentes positions. Mm. Et plusieurs observateurs s'entendent pour dire que c'est vraiment du côté des Premières Nations que va se jouer le dernier chapitre de ce feuilleton.
Oui.
Ça reste à voir.
Et il y a aussi, au point de vue tout simplement moral, quelque chose d'inconcevable quant à moi par rapport aux Premières Nations. Puisque le gouvernement fédéral donne des milliards de dollars à Kinder Morgan Trans Mountain en diminution d'impôts, en argent comptant.
Crédit d'impôt,
mais aussi en argent, subvention et tout ça. Est-ce que cet argent-là ne serait pas mieux utilisé pour aller améliorer les conditions des Premières Nations qui sont pour la plupart en territoire où va passer ce fameux pipeline, encore là, mettant en danger leurs sources d'eau potable, leur manière de vivre, aussi leur gagne-pain, puisque les saumons, déjà, l'année prochaine, c'est pas sûr, on va avoir des saumons, là.
Ben écoute, je pense que la réponse est dans la question, Marie-Hélène, et puis ça soulève aussi tout le versant économique du dossier.
Mm.
On a évoqué les points écologiques. Mm. On va continuer de le faire dans quelques minutes. Mais sur le plan économique, ça ne tient pas debout.
Non.
On a parlé de 15 000 emplois. C'est une vue de l'esprit.
Oui, ben on en a parlé dans certains débriefs précédents.
Voilà, on avait souligné le caractère farfelu de ce chiffre de 15 000 emplois. Donc, on n'y reviendra pas. Mais sur le plan économique, là, on n'a pas de gains importants à réaliser. Ce sont des emplois temporaires, peu qualifiés, une fois que le pipeline est construit. Par contre, il y a un nouvel élément qu'on pourrait soulever rapidement.
Il y a une perte d'emploi possible.
C'est ça. Non seulement ça n'apporte pas d'emploi, mais il y a possiblement un inconvénient dans la région de Burnaby.
Oui.
La construction du pipeline Trans Mountain, c'est-à-dire l'expansion, impacterait négativement les emplois d'autres raffineries voisines.
Ouais.
Et c'est ce qu'a soulevé la députée verte, Elizabeth May.
May, qui a été répondue par un député NDP, qui semblait agréer avec elle. Là. Donc, il y aurait, parce que lui est de cette région-là, donc il y aurait une perte d'emploi de ce côté-là qui serait immédiate. En fait, là, dès que ça s'est mis en œuvre, on en perd. Mais on pense pas non plus à tous les emplois s'il y avait un déversement qui serait perdu.
Ben là, écoute, c'est l'industrie du tourisme qui crache, qui s'écrase complètement pour des années.
La pêche. On a vu ce qui s'est passé avec le déversement à Bella Bella l'année passée. Le fond a été totalement brûlé. Là. Il y a plus rien. Là. Il vient d'en avoir un autre la semaine passée.
Et ça,
là.
C'était des petits déversements mineurs.
Des petits déversements.
Je pense que c'était un remorqueur qui avait fait naufrage sur un récif.
C'est genre, ça fait qu'un sens. Là. C'est stupide. Là.
Oui.
Mais ça cause des dommages. Donc, il y a déjà, l'année prochaine, moins de saumon parce qu'on sait que Kinder Morgan a mis des filets dans le fond des rivières à saumon pour empêcher qu'ils pondent leurs œufs. Donc, l'année prochaine,
parce qu'ils préparent le terrain là, pour le passage du gros pipeline.
C'est ça.
Donc, ils veulent faire le ménage sur le trajet, l'itinéraire de leur expansion.
Donc, mais ça, la pêche, là, ça représente donc le gagne-pain de plusieurs Premières Nations. Aussi leur nourriture, hein, ils s'en nourrissent, mais il y a aussi toute l'industrie de tourisme qui vient justement pour cette nature-là. Et les berges de ces rivières-là, si ça arrive sur une berge, ben évidemment, toute la forêt meurt à moyen terme. Donc, tout ça, c'est pas pris en considération quand on parle des retombées économiques favorables.
Alors, oui, c'est ça. Donc, on a bien expliquer dans d'autres éditions du débrief à quel point l'argumentaire économique
du projet
était frauduleux, boiteux, spécieux, bref, ne tenait pas debout. Alors, tu as parlé de toutes sortes d'inconvénients environnementaux.
Ouais.
Si on remonte à la source du pipeline, allons à l'extraction de la matière, donc cette ressource naturelle dont on fait l'extraction nuit et jour en Alberta, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Déjà, dès l'extraction, il y a d'immenses problèmes.
Oui.
Les émissions résultant de l'extraction sont équivalentes à celles d'une ville de la taille de Mexico City.
Oui. Alors, le smog qui est créé, parce qu'il y a des particules toujours qui vont dans l'air. Il y a des particules toujours qui vont en l'air et ça, ça correspond donc à ce qui se passe à Paris ou à Mexico dans les plus grosses journées d'été.
Oui.
Là. Et ça cause des problèmes au point de vue des poumons, mais au point de vue cardiovasculaire aussi. Et parce que c'est dans les plaines de l'Ouest que ça se passe, ça se propage, hein, il y a des grands vents. Les animaux qui mangent l'herbe sont aussi atteints de maladies.
Énorme.
Et les humains vont manger cette viande-là.
Énorme. Donc, en amont, il y a d'énormes problèmes. Et en aval, on n'en parle même pas. Potentiellement des accidents sur l'itinéraire du pipeline.
Oui.
Des pipelines qui se rompent, qui se fissurent, qui éclatent. Ça arrive tous les jours en Amérique du Nord. Vous n'avez qu'à faire la petite recherche sur votre moteur de recherche préféré. Vous allez voir que les incidents sont très nombreux. On n'en parle pas assez. Et
ça passe dans des endroits qui sont difficiles d'accès. On l'a vu l'été dernier avec les feux qu'il y a eu en Colombie-Britannique.
Oui.
Il y en a qui brûlent encore. Ces feux-là...
Ou qui brûlaient encore très récemment.
Non, ça brûle encore. Il y en a quelques-uns qui sont sous-jacents là, dans la tourbe. Donc, si on n'est pas capable de les accéder parce qu'il y a un feu, est-ce qu'on va être capable de les accéder s'il y a une pipeline qui pète?
C'est une excellente question. Et au point d'arrivée à Burnaby, il y a aussi d'énormes questions. On sait que le trafic des pétroliers, les tankers, augmente de 700%. Ça veut dire 400 pétroliers qui circulent à Vancouver, à Burnaby, dans le détroit Juan de Fuca, ici juste devant...
Qui est très riche en biodiversité.
Voilà.
Jusqu'à
date. Il reste à peu près 50 membres de cette espèce des orques dans notre
et qui vont peut-être mourir parce qu'il y aura plus de saumon qui va être né dans la dernière année.
Exact. Donc on peut aussi parler des recommandations du GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux du climat de l'ONU, qui appelle à ne plus construire d'infrastructures. Selon les climatologues, il faut laisser 80% des réserves de pétrole dans la terre, dans le sous-sol, ne pas toucher à ces réserves-là.
Ouais.
Faute de quoi, on va subir des hausses de température énormes.
Mais on dit déjà qu'il y a des pays comme l'Arabie saoudite, croyez-le ou non, qui déjà vont dans les...
Se désinvestissent
et dans les quelques prochaines années, il n'y aura plus d'auto qui fonctionne au pétrole. Les autres, ils ont le soleil, évidemment, qui leur permet de développer ces énergies propres-là.
La Norvège.
La Norvège, qui pourtant n'a presque pas de soleil.
Et qui a beaucoup de pétrole.
Et qui
a fait le choix de désinvestir.
Alors, nous, ici, qui avons le vent, qui avons la marée, on n'a aucune raison.
Et cet autre pays, totalement inattendu, une grande surprise en septembre dernier, la Chine, qui a annoncé que les moteurs à essence allaient être retirés à terme. Donc, c'est à moyen terme. Là, on parle de quelques années.
L'Inde aussi.
L'Inde, tous les pays vont suivre.
Ouais.
Le mouvement est engagé. Le pétrole est en récession, est en régression.
Ouais.
En plus, avec le prix volatile de cette matière de première-là, le bitumineux sera le premier à souffrir parce qu'il coûte
très cher.
Très cher à extraire.
Et c'est pour ça que Kinder Morgan a besoin des subventions du gouvernement. Parce qu'en bout de ligne, là, une fois que tout ça s'est fait, là, qu'ils ont détruit l'environnement et tout ça, et ils seront pas capables de le vendre parce que c'est un produit de dernière qualité et les pays qui sont déjà maintenant en train d'essayer de diminuer leur empreinte carbone voudront pas de cette saleté-là pour venir polluer. Ils vont acheter du bon pétrole.
Mais ça, c'est... En guillemets, oui. Ben, oui, c'est ça. Et puis qui coûte moins cher à produire.
Qui coûte moins cher à produire.
Alors, le pétrole bitumineux de l'Alberta qui occupe une superficie inconcevable de cette province. Un champ de ruines, bien souvent, parce que ce sont des bassins d'eau usés.
Ouais. Et qui sont sur des routes migratoires.
Inutilisables.
Des routes migratoires d'oiseaux.
Incultes.
Oui, et ces oiseaux-là vont là, remplissent de pétrole, meurent.
Alors, plutôt que de jeter la pierre à l'Alberta, il faut trouver ensemble des solutions. Essayer d'adopter la pensée positive.
Je pense que... Oui, il faut jeter la pierre à l'Alberta.
Ben, c'est-à-dire qu'il faut...
Il faut s'opposer
à ouais. leur politique.
Mais il faut leur jeter la pierre dans le sens où il faut leur dire, écoutez, vous avez d'autres moyens de développer votre industrie,
exact.
Votre économie. Oui. Ouvrez-vous l'esprit. Arrivez dans notre siècle. Là. Restez pas en arrière avec votre vieille pensée du début de l'industrialisation.
On parle d'une dépendance. Hein, parce que c'est une dépendance économique qui a été créée sur plusieurs années et qui a apporté une espèce de prospérité illusoire
oui,
qui, malheureusement, il va falloir déconstruire tout ce modèle-là et favoriser des options qui sont durables.
Moi, je pense que, et c'est une opinion très personnelle, je pense que l'addiction, la dépendance est plutôt à la grosse enveloppe d'argent que ces compagnies-là donnent aux partis politiques.
Oui, il y a ce phénomène-là aussi qui se produit.
Tu sais, je veux dire, on sait que le gouvernement antérieur ici en Colombie-Britannique a reçu des enveloppes incroyables de la Banque de Chine même. What the hell?
C'est voilà, quoi, dans le dossier du gaz naturel liquéfié, oui, je pense que ça a été très bien démontré. Et sûrement dans le dossier du pétrole, le temps imparti, malheureusement, s'écoule.
Alors, si moi je peux me permettre juste une petite chose, Alexis. Si vous voulez en savoir plus, allez vous renseigner sur des sites comme de Taï, par exemple, D-Smog. Allez voir, inscrivez-vous à la lettre de nouvelles de Dogwood Initiative.
Pareil.
Vous allez avoir des faits qui sont évidemment vus sous le télescope fondé, mais vous sur le télescope aussi dans votre environnementaliste. Signez les pétitions. Ça vous coûte rien. Ça vous engage à rien. Signez les pétitions. Si jamais il y a un vote pour une initiative citoyenne, sortez de chez vous, allez voter. C'est une importance capitale non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui viendront après nous sur la planète.
Voilà, comme c'est bien dit. Merci beaucoup, Marie-Hélène.
Et bonne année, joyeux Noël à tous encore une fois.
J'ai l'impression qu'on va se retrouver au micro de CILS en 2018. La formule reste à déterminer.
Ouais. On va savoir une petite émission à nous.
Je te souhaite sur ce d'excellentes fêtes de fin d'année, joyeuses fêtes de fin d'année. Bonne année. Bonne année à tous nos auditeurs. C'était la dernière de la série de ces débriefs en mode revue de l'année.
Pour le moment, on sait jamais.
Ben oui, ben il y aura peut-être de nouvelles incarnations, entre guillemets, de nouvelles émissions qui restent à formuler et à placer dans la grille.
Ouais.
Mais pour le moment, cette petite série regard en arrière, regard dans le rétroviseur est terminée. Joyeuses fêtes à tous nos éditeurs et au plaisir de se parler en 2018.
À la prochaine.